Donc, on a effectivement... je ne sais pas pourquoi il reste des trucs. Pourquoi j'ai fait du copier-coller. Donc, on a cheminé toute l'année sur les traces de notre baptême, en regardant plein de choses. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est vraiment de se pencher sur le avant le baptême et après le baptême. Donc, comment est-ce que le baptême, en fait, a fondé la notion de sacrement ? Parce que les sacrements sont nés quand même... la notion de sacrement, au sens où on l'entend aujourd'hui, et puis avec les sept sacrements, elle est relativement récente, entre guillemets. C'est quand même 11-12e siècle, donc on est tard après Jésus. Même si c'est pas, ça a progressé, donc ce n'est pas, un donné comme ça qui tombe du ciel, quoi, brut. Mais aussi, le baptême, c'est aussi celui qui organise l'économie sacramentelle, puisque c'est le premier des sacrements, et qu'ensuite on introduit dans l'Église, et donc ça s'ouvre sur la suite. Et puis donc cette question de qu'est-ce qu'on peut dire des non-baptisés par rapport au salut, puisque le baptême, c'est celui qui porte le salut. Alors, dans un premier temps, je voudrais remonter sur le thème, on va faire un petit peu de linguistique, avec le mot mystère, mysterion, en grec, donc c'est un mot grec, qui désigne en fait une cérémonie d'initiation, dans le contexte global de la Grèce. Donc on peut penser aux religions à mystère, ce qui effectivement sont de cet ordre-là, avec des rites initiatiques. Le mot, il est utilisé dans la Bible la première fois avec Daniel, où il est dit « Alors, dans une vision nocturne, le mystère fut révélé à Daniel et Daniel bénit le Dieu du ciel. » Donc, en fait, ce qui était révélé là, c'est le roi Nabucodonosor avait eu un songe et il demandait à tous ses mages et tous les gens autour de lui de lui interpréter ce songe. Voilà. Et en fait, Daniel l'a pris et donc ce qu'il voit, c'est effectivement le... ce qu'on voit bien là-dedans, c'est que c'est une vérité donc qui est cachée, un songe qu'on ne sait pas comment interpréter, des choses qu'on ne sait pas comment déchiffrer. Et en même temps, c'est Dieu qui donne. Voilà, parce que Daniel, il a une vision et c'est Dieu qui lui donne la réponse et qui lui explique cette vision. Voilà, donc on est exactement dans cette rubrique-là. Et d'ailleurs, le roi Nabucodonosor ne s'y trompe pas puisqu'il dit, à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. » celui qui révèle les mystères, puisque tu as su nous révéler ce mystère. Donc il sait bien que ce n'est pas Daniel tout seul, mais que c'est bien parce que Dieu a utilisé Daniel et a transféré avec Daniel. Donc on est bien dans une révélation de Dieu, dans ce contexte-là, qui pourtant est un contexte, le roi Nabucodonosor n'est pas juif ni croyant. Alors dans le Nouveau Testament, on a l'emploi souvent, pas par Jésus, mais par notamment les lettres aux Éphésiens, puis beaucoup dans saint Paul. Et saint Paul l'emploie dans plusieurs sens. En fait, il parle du mystère caché en Dieu depuis les origines. Donc, quelque part, c'est le plan divin, le plan de l'incarnation. Donc, c'est ça, le mystère, c'est déjà ça. Ensuite, il applique le mot mystère à la révélation qu'il doit en faire. Et donc, comment est-ce qu'il doit expliquer ce mystère. Et enfin, il applique à qu'est-ce qu'on doit en faire, et surtout dans son appel, dans ce qui lui tient à cœur, qui est l'appel de tous les hommes. Donc en fait, on a trois niveaux. On a Jésus lui-même, qui est le mystère, et puis le corps de l'Église du Christ, qui est l'Église, donc comment ça se déploie. Et on peut lire de la même façon dans Éphésiens, donc je vous lis la citation d'Éphésiens 3. « Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. » Donc c'est bien un mystère qui n'est pas juste sur je ne sais pas quoi, qui est vraiment lié au Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Donc c'est bien Dieu qui révèle ce mystère, qui explique, qui déchiffre ce mystère. Et ça se passe dans l'Esprit Saint. Et ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Donc le mystère, c'est d'abord celui du Christ, mais ça va jusqu'à qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église, et notamment le salut au-delà des Juifs. Dans le Bérulle, parlera des mystères de la vie du Christ, et c'est un mot qu'on emploie un peu régulièrement quand même. Et quand il dit ça, en fait, ce qu'il dit, c'est des événements de l'histoire qui sont saturés de la présence divine, non seulement par la présence du Christ, mais aussi par ce qu'il fait et au-delà par son rayonnement. Donc c'est vraiment cette idée de Dieu qui vient révéler quelque chose finalement de lui, de son projet sur l'homme. Et du coup, il y a une conséquence, c'est pour que ça devienne les nôtres. Donc quand Bérulle dit qu'il faut méditer les mystères du Christ, c'est pour que ça nous imprègne quelque part, que ça travaille l'imitation du Christ en nous. Donc finalement, le mystère, c'est moins une chose cachée, qui est le mot un peu dans lequel on l'emploie au sens profane du terme, hein, c'est mystérieux. Voilà, que quelque chose de nouveau, d'étonnant, qui a besoin d'une clé de lecture. Et en fait, ce mystère, c'est finalement Dieu qui se donne à voir, Dieu qui vient vivre en nous, et le salut n'est pas réservé aux Juifs, là, mais à tous. Et donc, il y a des conséquences sur le monde et sur nous-mêmes. Donc, on est bien exactement dans la logique du baptême, qui donne le salut et qui est pour toutes les nations. Donc on est bien dans cette logique, c'est le baptême, par le baptême on a la foi en Dieu, donc on a bien c'est Dieu qui se révèle à nous, et en même temps il y a quelque chose qui se passe en nous, et même toutes les nations dans l'Église. Voilà. Et quand dans Éphésiens 5, donc un peu plus loin dans la lettre, Paul dit « ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église », on a bien le lien explicite entre le mystère et l'Église du Christ. On a bien le lien entre le mystère qui est le Christ, qui est le plan de Dieu, qui est ce que Dieu veut révéler, et puis l'Église du Christ, ici. Donc c'est cette communication des richesses de la grâce, c'est bien, qu'on appelle mystère, c'est bien ce qui se passe dans les sacrements. Donc on voit bien que ce mot-là. Cependant, le mot mystère n'est pas rapproché de la liturgie, sauf dans cette citation de 1 Corinthiens, relativement indirectement, que l'on nous regarde donc comme les auxiliaires du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Voilà, donc il y a un lien avec le fait d'être intendant des mystères de Dieu. Mais ce n'est pas dans toutes ces lettres-là, il est employé non seulement dans Éphésiens, mais dans d'autres lettres de saint Paul, ce n'est pas spécialement en termes rituels et donc en lien avec nous, ce qu'on va faire les sacrements. Mais c'est quand même ça explique ce qui se passe et finalement ce qui est donné là, donc il se retrouvera dans les sacrements. Donc c'est un peu plus tard, c'est Origène, donc au deuxième siècle, qui le premier associe mystère et sacrement. Et donc dans ses homilies, surtout son commentaire sur l'évangile de Jean, il applique mystère, je vous l'ai mis en grec parce que j'ai trouvé comment écrire grec, donc je suis très contente de moi, applique au baptême, à l'Eucharistie et plus largement à tous les rites chrétiens interprétés spirituellement. Et donc, quand il explicite ça, en fait, ce qu'il dit, c'est que le baptême, c'est pas seulement un rite visible, donc c'est pas juste un rite d'initiation. Voilà, tu passes dans l'équipe de ceux qui suivent le Christ, mais c'est-à-dire un signe qui révèle Dieu et qui fait que Dieu invisible se rend visible quelque part sous un signe matériel, et en l'occurrence, qui nous fait participer au mystère pascal du Christ. Et à travers les écritures de toutes les écritures. Donc on a bien Origène, il utilise ce mot du langage paulinien et il l'applique à l'initiation baptismale chrétienne qui est faite de paroles, qui est faite de symboles, qui est faite de rites. Voilà. Et très vite derrière lui, au IIIe siècle, le mot mystérieux est appliqué au baptême. Et les Cappadociens, donc au IVe siècle, les Cappadociens, c'est Basile, Saint Grégoire de Nation, c'est Saint Grégoire de Nice, feront ensuite des mystères, ils diront tout ce qui est autour des sacrements. Voilà, donc ils l'utilisent de façon plus générique. Voilà, et Saint Ambroise, au IVe siècle, il écrit des sacramentis et aussi un des mystéris, donc on a bien les deux mots rassemblés. Donc ce que nous dit une citation de le catéchisme de l'Église catholique, les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvifiques. Donc c'est d'abord la vie du Christ et les paroles et finalement la passion du Christ et sa résurrection qui sont le cause du salut. Et dans ces paroles, ça annonçait déjà le mystère pascal. Mais ça annonçait aussi et préparait ce que Jésus allait donner à l'Église lorsque tout serait accompli pour qu'il y ait une continuation quelque part ou une actualisation pour nous. Donc les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de son Église, le Christ dispense dans les sacrements, car ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses mystères. Voilà. Et donc c'est ce qu'on avait vu quand on avait étudié le baptême. Hein. C'est à la fois un baptême qui qui s'inspire du baptême de Jésus, même si ce n'est pas exactement le même baptême, on avait vu ça. Et on avait vu aussi comment le baptême, en fait, nous plongeait dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, c'est de nous faire passer, quelque part, avec Jésus, dans ce mouvement, pour être divinisé. Voilà. Et donc, on est bien dans une transposition, c'est-à-dire que la vie de Jésus, c'est elle, et c'est là où il y a les vrais mystères, c'est Jésus lui-même. Mais nous, c'est transposé dans les sacrements. Donc, c'est pas, on revit pas ce que vit Jésus, c'est pas exactement ça le sujet. C'est une autre façon d'être associé à Jésus et à sa passion et à sa résurrection. Et donc, c'est une forme de visibilité de ce que le Christ a vécu. Alors ensuite, le mot grec, donc ça c'est un mot grec, mysterion, il a été traduit par le latin sacramentum, qui est vraiment celui qui nous a donné le mot sacrement, en tout cas en français. Alors sacramentum, chez les Romains, c'était le serment militaire à l'empereur, qui était un serment très ritualisé, qui manifestait en fait un engagement réciproque. Il y avait l'engagement du militaire à servir l'empereur et finalement Rome, voilà. Et il y avait de l'autre côté un engagement de l'empereur, enfin, de tout ce qui était autour du salaire, de la retraite, de la protection, etc. Donc c'était vraiment un engagement mutuel et très ritualisé. Donc ce mot, il a été repris comme ça. Et donc, c'est celui qui est utilisé pour les traduire mysterion et qui nous a donné notre mot sacrement et qui illustre bien le pacte de confiance entre le nouveau chrétien qui s'engage envers Dieu et Dieu qui s'engage envers lui. Voilà, et c'est un mot sacramentum qui est aussi utilisé dans le cadre juridique. Donc, on est bien dans cette relation alliance que nous on dit, mais relation très engageante. Voilà, et je vous ai mis une citation de Tertullien. Heureux est notre sacramentum d'eau, parce qu'en lavant les péchés de notre première cécité, nous sommes délivrés et admis à la vie éternelle. Donc il utilise, Tertullien, c'est assez tôt, hein, c'est 4e siècle, je crois. Donc il utilise le mot sacramentum d'eau. Et, 2e siècle, juste après, le baptême est dit au sacrement, il dit un sacrement, et Pierre avait aussi parlé d'engagement à propos du baptême. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement vers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'était bien cet engagement des deux côtés aussi que mentionnait Pierre. Alors, le baptême, il est vraiment le... Donc là, je vous remets des passages. J'ai mis pas mal de passages du catéchisme de l'Église catholique. Pas mon habitude, mais là, ça change un peu. Donc, le Saint-Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Donc, en ce sens-là, c'est vraiment le baptême qui est le prototype et la matrice sacramentelle. Puisque d'abord, c'est celui qui initie le fait qu'on devient chrétien. Donc, il est le fait qu'on entre dans la vie, dans l'esprit. Et derrière, il faut le baptême pour avoir les autres sacrements. Donc, on est vraiment là-dessus. Et la forme compte. Donc, il y a aussi cette idée que ce n'est pas juste des décrets ou des paroles, mais qu'il y a une forme pour imprégner. Donc, pour profiter du don de Dieu, on doit s'inscrire dans l'ordre de Dieu. Leur dos, se couler dans la manière même de faire de Jésus. Et donc, pour les pères de l'Église, tout est lié. Il n'y a pas de distinction entre les sacrements et le reste de la liturgie. Donc, c'était très imbriqué. D'ailleurs, toutes les grandes... Quand on avait vu le déroulé du baptême pendant la vigile pascale, on est exactement dans cette imprégnation du sacrement et de la liturgie, sachant que c'est pareil pour la confirmation et l'Eucharistie. Donc, on est bien enchâssé dans la même liturgie. Voilà. Et donc, les sacrements sont, pour Dieu, le moyen d'agir. Et ça correspond à ce qu'a eu le Christ à notre... Enfin, ça nous remet dans le même rapport que le Christ avec notre humanité, dans toutes ses réalités. C'est pour ça qu'il y a toujours des signes visibles dans les sacrements. Dans Romains 6, on nous dit « Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. » Nous aussi, comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Donc, une vie nouvelle. Donc, on est, c'est une nouvelle naissance, le baptême. Et donc, derrière, une vie, ça se vit. Donc, c'est pas juste, c'est fait, voilà, c'est bon. On a coché la case et puis on peut passer à autre chose. Donc, en fait, c'est le début de quelque chose. Voilà, et c'est cette vie nouvelle qui va être nourrie et faire grandir par les autres sacrements. Donc le baptême est non seulement le premier des sacrements au sens où il ouvre aux autres, mais il est aussi le prototype, puisque par le baptême, en fait, on a exactement comment, comment on passe par la mort et la résurrection du Christ et comment donc on est associé, christifié. Alors, comment on en est arrivé à nos sept sacrements ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le mystère pascal, une fois qu'il accomplit, l'Église, en fait, elle est dépositaire du fait qu'elle le communique. Qu'elle le communique. Et donc, c'est ça qu'il y a, donc, qui est ritualisé, répété, pour que cette communication, elle s'imprègne. Et autant les mystères de la vie du Christ, c'est une seule fois, une sorte de radicalité et d'unicité parce qu'il est Dieu. Mais nous, ça s'inscrit dans le temps et donc on a besoin aussi d'un certain nombre de répétitions. C'est pour ça qu'il y a des sacrements qui sont répétitifs et d'autres qui sont une seule fois. Voilà. Donc il y a une transposition du mode existentiel en Jésus en mode sacramentel qui a cours depuis que assis à la droite du Père, il dispense ses dons sur l'Église et le monde. Donc c'est une transposition que l'Église n'invente pas. Donc quelque part, en tant qu'épouse du Christ, elle continue ou elle donne corps à la pensée du Christ. Et elle s'imprègne de ce qu'il a dit, de ce qu'elle a reçu, de l'Esprit Saint qui l'habite, pour se dire comment l'appliquer et faire grandir les chrétiens qui lui sont confiés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi... on est vraiment dans le domaine de la vie de Jésus. Et donc... Les sacrements, ils illustrent aussi notre parcours de vie très humain avec, il y a la naissance, il y a la croissance, plutôt la confirmation, il y a la maladie, voilà, la guérison, l'onction, on est malade, il y a le mariage, il y a l'exercice de l'autorité, il y a la dispensation des rites par le prêtre, etc. Donc en fait, c'est une transposition pour que, quelque part, on vive une humanité imprégnée de Dieu. Donc évidemment, les sacrements, ils ont pu se déployer qu'après la naissance de l'Église. On n'en avait pas besoin. Ils sont une continuité. Ils sont une continuité vivante. Même si on n'a pas toutes les étapes et donc on ne sait pas exactement comment tout s'est devenu. On l'a vu beaucoup la dernière fois avec la confirmation où dans les évangiles et les premières lettres, c'était plutôt une imposition des mains. Nous, dans la confirmation, c'est plutôt une onction. Voilà, donc il y a des évolutions. Mais l'onction existe aussi dans les évangiles. Donc on a cette... cette évolutivité, mais il y a une continuité quand même. Voilà. Et ce qui s'est joué dans tous ces siècles, c'est que l'Église a constaté qu'il y avait dans la vie chrétienne et dans la liturgie des rites plus importants que d'autres. Non pas plus importants au sens juste, ils ont plus de poids que les autres, mais parce qu'en fait, c'est un engagement du Christ de Dieu, plus qu'une évolution de notre réception. Donc ça, c'est un mot important qui distingue les sacrements des sacramentaux, qui sont les autres formes, comme par exemple se bénir, enfin bénir avec l'eau bénite, ou des choses comme ça, qui ne sont pas des sacrements, mais qui sont des gestes qui ont tout à fait une valeur et qui ne sont pas neutres. Mais c'est pas le même rapport. Donc, au XIIe, XIIIe siècle, il y a eu cette cristallisation où... On a conservé le mot sacrement un peu au sens large, mais quand même, l'idée, c'était d'être plus spécifique pour identifier dans l'ensemble de l'agir symbolique de l'Église ce qui est doté d'une efficacité garantie, c'est-à-dire les sacrements, par rapport à ce qui dépend davantage des dispositions de celui qui le reçoit. Donc, un baptême, même si le baptisé, il a une foi qui est un peu chancelante, c'est pas très clair, etc. Je dis pas qu'il a pas quand même manifesté qu'il avait un peu de foi, mais enfin, bon, à la limite, le nourrisson, il n'a rien manifesté du tout. Par crier peut-être, mais sinon, il ne se passe pas grand-chose. Donc le sacrement, c'est vraiment un engagement du côté de Dieu. Et il y a une réception de l'autre côté. Mais c'est quand même dans ce sens-là. Alors que les sacramentaux, c'est plutôt comment moi, je ritualise ma vie pour aider... à mieux vivre par la prière, par prier le chapelet par exemple, ou quand on pense aux enterrements, il y a des choses, il y a des gestes qui font que ça permet de mieux habiter, mais c'est pas directement un engagement de Dieu. Et donc c'est là où on a commencé à compter les sacrements, et puis on arrive au septenaire. Donc et du coup on a regardé un peu a posteriori ce que ça voulait dire ce septenaire. Donc c'est vraiment une cohérence entre ces dimensions de la vie humaine, ce que je disais, naître, etc., grandir et tout ça. Et puis, évidemment, le chiffre 7 qui est porteur de sens, puisque 7, c'est la totalité. Donc quelque part, on dirait 7, on se dit que 7, c'était bien, donc on s'est arrêté là, et on a distingué les choses. Voilà. Parce qu'il y a eu des moments où il y avait le sacrement des rois qui pouvait être compté comme un sacrement. Donc, il y avait des discussions. Est-ce que la confirmation et le baptême, c'était le même ou est-ce qu'il y en avait deux? Enfin, voilà. Donc, des choses comme ça qui ont fait que, voilà, ça a maturé, ça a progressé, l'esprit a parlé. Et finalement, on a organisé les 7 sacrements dans 3 registres. Donc, les sacrements de l'initiation, le baptême et la confirmation et l'Eucharistie, dont 2... une seule fois et l'Eucharistie fréquente, fréquente comme on veut. Les sacrements de la guérison, pénitence et onction des malades. Donc là, c'est fréquent, mais l'onction des malades, c'est pas non plus tous les matins, voilà. Et puis les sacrements du service, mission, qui eux sont une seule fois. Mais le mariage, il peut être renouvelé si on est veuf, on peut se remarier. Donc c'est pas une seule fois. Voilà. Donc il y a les dimensions à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on distingue un sacrement? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire parler d'un sacrement? Alors déjà, c'est une institution par le Christ. Donc, c'est pas juste, tiens, c'est bien, ce serait une bonne idée, etc. C'est vraiment reçu de la volonté du Christ. Alors, pas tous explicitement. Jésus n'a pas parlé spécifiquement de l'onction des malades, mais il a fait beaucoup de guérisons et il l'a fait avec des gestes. Il a pas parler de l'ordination des prêtres, au sens, il n'a pas parlé de l'ordination comme ça, mais quelque part, il a choisi des apôtres et il leur a donné à la Sainte Seine le fait de continuer comme lui. Donc ça peut être implicitement, ou on peut traduire comme ça. Le deuxième aspect, c'est un signe sensible, donc il y a un rite, il y a quelque chose de visible. On est dans le monde matériel. Le sacrement, il vient nous toucher dans notre humanité. Donc il y a un signe forcément sensible, c'est pas juste dans la tête ou juste des paroles. C'est quelque chose de matériel. L'aspersion d'eau, le parrain de vin, la position des mains, etc. Il y a une parole qui donne une forme. Et donc la parole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle précise le sens du signe. Et puis elle donne l'intention de l'Église, c'est-à-dire c'est pourquoi. Donc je te baptise au nom du Christ, et quelque part elle explicite aussi que c'est pour le salut. Voilà. L'efficacité, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sacrement, ça, c'est efficace par lui-même. Donc même si le prêtre n'est pas le plus saint de la création, même si moi, ma foi, elle est faible, etc., le sacrement, il est efficace, il est réel, ça se produit. Donc il confère la grâce. Et c'est pas juste une symbolique, c'est pas juste une image, c'est vraiment, il produit ce qu'il signifie. Donc si le baptême, la rémission des péchés, l'absolution, c'est qu'on est pardonné des péchés. C'est effectif, voilà. Ça veut dire qu'on va pas rechuter derrière, mais c'est comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle ex opere operato. Et donc c'est différent des sacramentaux qui, eux, sont ex opere operanti, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la manière dont je l'accueille et de la manière dont je le fais. Voilà. Ensuite, les sacrements, ils sont confiés à l'Église, dans une dimension ecclésiale. Donc c'est un acte du Christ dans l'Église et pour l'Église. Et donc il est public, rituel, et puis ordonné à la communion ecclésiale. C'est pour ça qu'on avait dit, quand on avait parlé du rituel des baptêmes, que c'était quand même mieux les baptêmes pendant la messe que tout seul au milieu de nulle part avec 3 personnes autour du baptistère. Voilà. Parce que s'il y a cette dimension de toujours que c'est une entrée dans l'Église, que c'est le corps du Christ qui se construit, et donc c'est dans cette réalité ecclésiale que ça se passe. C'est pour ça aussi qu'il faut le baptême en entrée, parce que sinon, on n'est pas dans le corps de l'Église. Donc, ça ne peut pas être une réalité ecclésiale si on n'a pas eu le baptême, puisque c'est le baptême qui nous fait rentrer dans ce corps de l'Église. Donc, évidemment que c'est le premier qu'il faut avoir. Le dernier critère, c'est ordonner au salut dans l'économie sacramentelle. Donc, il y a toujours un lien vers le salut. Ce n'est pas juste le bien-être des gens, c'est pas juste... voilà, c'est quelque chose de l'ordre du salut. Qui est comment Dieu nous fait participer au mystère pascal et finalement nous divinise petit à petit, nous sanctifie. Voilà. Et donc il y a toujours un lien avec le salut. Alors c'est très clair dans évidemment le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, mais pénitence évidemment aussi, voilà, rupture du péché et puis retourner vers une vie en Dieu. L'onction des malades aussi, tout ce qui est autour de la guérison du corps qui illustre aussi la guérison de l'âme. Et puis tout ce qui est ordre et mariage, donc il y a cette dimension de pour le salut. Voilà. Saint Thomas résume ainsi les différentes dimensions du signe sacramentel. Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé. Donc, à savoir la passion du Christ. Il nous replace dans ce mystère de la passion et de la résurrection du Christ, qui met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, concrètement ce qui agit, à savoir la grâce qui arrive en nous, et puis qui pronostique, qui annonce à l'avance la gloire à venir, donc qui nous oriente vers le salut et finalement, le jugement dernier, à choisir le Christ. Voilà. Alors, pour aller un cran plus loin dans, ce sacrement comme signe visible de la grâce invisible, voilà, je voulais repartir de saint Augustin qui a quand même aussi initié une approche de ce qu'était que le sacrement, qu'est-ce qui se joue dans le sacrement. Donc il explique « Mes frères, c'est cela que l'on appelle des sacrements. Ils expriment autre chose que ce qu'ils présentent à nos regards. Ce que nous voyons est une apparence matérielle, tandis que ce que nous comprenons est un fruit spirituel. » Et il a cette phrase qui a beaucoup servi, donc je la lis en latin mais en français. « La parole rejoint l'élément pour produire le sacrement. » Et donc c'est lui qui utilise le premier, le mot « signe » pour parler du sacrement et pour exprimer cette chose qui est qu'il y a une trace durable de ce signe, qu'il y a une réalité matérielle de ce signe, mais que ça révèle aussi une réalité invisible. Voilà, et saint Augustin écrit « Ôtez la parole, c'est du pain, c'est du vin. Le signe touche, joignez-y la parole et voilà un sacrement. » Donc il y a bien à la fois le signe et la parole pour que le sacrement ait lieu. C'est comme si le signe touche son corps et la parole devient un objet de foi pour l'âme. Et donc il vient nous baigner quelque part dans nos deux dimensions humaines et spirituelles. On peut faire le parallèle avec saint Jean-Baptiste qui était la voix. Mais la voix, elle passe. C'est un bruit, puis voilà. Alors que Jésus est la parole qui demeure. Et donc, on a d'un côté le signe pur, et de l'autre côté l'effet sacramentel. Donc, qu'est-ce que ça produit en nous? Comment la grâce vient en nous? Voilà. Et donc, ça s'applique très bien au baptême, mais un petit peu moins, parce que dans l'Eucharistie, il y a une troisième partie qui est la présence réelle. Donc, on a le pain et le vin, on a l'effet en nous de la communie de Christ qui vient demeurer en nous. Mais qu'est-ce qui se passe de cette présence réelle où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ? Donc, ça a été travaillé à la suite d'Augustin par un certain nombre de gens, donc Isidore de Séville, par exemple, qui montre des choses, Béranger qui insiste sur le caractère sacré du signe. Donc, chacun explore un peu tout ça pour se dire qu'est-ce qui se joue là et finalement, comment on peut qualifier les choses et notamment parler de la présence réelle. Et du coup, c'est au Moyen-Âge où on... En fait, on transfère la qualification du sacré du signe. Donc, c'est pas tant le pain et le vin qui sont sacrés que ce qui est signifié. Voilà, donc c'est un premier décalage qui introduit une autre dimension. Peu après, avec les Victorins, donc là, je vous ai mis beaucoup de noms, je sais pas pour quelle raison, on a un troisième élément, du coup, donc on a le signe, mettons le pain et le vin. On a la communion qui nous fait demeurer en nous le Père, enfin la Trinité. Et puis, on a le res sacramentum, donc c'est la chose sacrée, donc c'est la chose devenue sacrée, qui souligne le fait que c'est... D'ailleurs, ça manifeste le fait que c'est effectif, efficace, puisque la réalité matérielle est transformée. Et donc, le pain et le vin sont transformés en le corps et le sang. Et donc, c'est bien ce que fait le sacrement, c'est qu'il transforme la réalité matérielle et qui, du coup, est efficace et peut introduire l'effet en nous. Voilà. Et donc, la grâce en nous. Donc, c'est ce troisième élément qui permet de montrer qui manifeste l'efficacité du sacrement. Donc ça joue aussi dans le monde réel, pas juste dans la grâce et dans notre cœur qui s'ouvre. Et en même temps, il y a les trois parties. Quoi. Voilà. Et on peut faire la même chose avec les autres sacrements, même si dans l'Eucharistie, c'est là où c'est le plus manifeste, puisqu'on a la présence réelle. Saint Thomas d'Aquin, il utilise les mêmes concepts de forme et de matière aussi d'Aristote pour décrire le sacrement. Et donc, il y a aussi cette idée de forme au sens aristotélicien qui est vraiment de se dire ça donne une consistance, un sens. Donc, c'est une sorte de réceptacle. Voilà. Et donc, c'est la parole prononcée au baptême, l'absolution, etc. Et c'est la manière, la matière et la valeur de la chose, l'aveu des fautes, la contrition, l'eau qui coule. Donc, ce sera intéressant de faire tous les 7 sacrements et puis de regarder à chaque fois qu'est-ce qui est du signe, qu'est-ce qui est du signe transformé ou irrigué par la grâce, et puis qu'est-ce qui est de l'effet en nous. Voilà. Alors, comme on n'est pas prévu de faire un cours sur tous les sacrements, hein, je m'arrête là, pour la partie sacrement. Et du coup, on peut se dire, bah, très bien, mais alors, qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui ne sont pas baptisés ? Puisque tout ce qu'on a dit dans l'année, c'est que le baptême était la condition du salut. Et que là, à travers les autres sacrements, on dit qu'il faut être baptisé pour pouvoir bénéficier de cette vie nouvelle en Christ. Et donc, bénéficier de la vie dans l'Église, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un salut en dehors du baptême ? Alors, déjà, on va se pencher un petit peu sur quelques citations. Donc, Jésus lui-même affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des dieux. » Donc là, c'est très clair, il dit, voilà, c'est, ça a l'air d'être la condition nécessaire. Voilà. Il a aussi commandé à ses disciples d'annoncer l'évangile et de baptiser toutes les nations. Voilà, qui est aussi que c'est une obligation. Donc quelque part, c'est pas juste facultatif, c'est mieux si vous les baptisez. Ça a l'air d'être une injonction, parce qu'il y a derrière une nécessité. Voilà. Mais à d'autres endroits, Jésus dit aussi celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc là, on a toujours le même binôme, croit, baptisé, sauvé. Donc voilà. Mais, une autre partie de la phrase, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc on ne dit pas celui qui n'est pas baptisé, il est condamné. Donc si c'est nécessaire, ça ne dit pas non plus qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le baptême. Voilà. Et puis, on a l'épisode du bon larron où Jésus a promis le royaume. Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et on peut penser que le bon larron n'a pas été baptisé. Il n'y a pas d'eau sur la croix. Et de toute façon, il n'a pas eu le temps. Donc, du coup, on est bien dans le cas de figure qu'il lui promet quand même un salut. Tu seras dans le paradis. Et que ça s'est joué au fait que le bon larron a identifié Jésus comme étant Dieu. Et donc, quelque part, il a juste eu la foi, mais il n'a pas eu le baptême. Et on a l'épisode aussi dans les Actes des Apôtres, là qu'on est en train de lire en ce moment d'ailleurs, c'était il y a une semaine. Pierre va chez le centurion Corneille, donc il y a un païen, pas un juif, même pas. Corneille et sa maisonnée reçoivent le Saint-Esprit alors qu'ils ne sont pas encore baptisés. Donc là, Pierre, il a juste parlé, il a dit « Ah ben, il paraît que c'est bien que je vienne, j'ai été appelé, etc. » Et pof, l'Esprit-Saint débarque. Donc en fait, il n'a rien fait du tout. Et donc, il y a bien quelque chose comme un salut qui viendrait indépendamment du... indépendamment du baptême. Donc, ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est le baptême est nécessaire au salut. Et donc, quelque part, on a un devoir d'annoncer le baptême et de faire cheminer les catéchumènes pour qu'ils soient baptisés. Mais ce baptême est nécessaire au salut pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. Donc, quelque part, c'est Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais lui, il n'est pas lié par les sacrements, puisqu'il est au-delà de ça. Et donc, il peut choisir d'autres moyens. Et donc, on a deux exemples dans le paragraphe suivant, qui sont le baptême de sang et le baptême de désir, qui sont plutôt des « on n'a pas eu le temps d'être baptisé », là où il n'y a pas eu la possibilité de demander ce sacrement ou de le faire. Donc, depuis toujours, l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. Donc, ce baptême du sang, comme le désir du baptême, porte les fruits du baptême sans être sacrement. Et donc, pour les catéchumènes qui meurent avant leur baptême, leur désir explicite de le recevoir uni à la repentance de leur péché et à la charité leur assure le salut qu'ils n'ont pas pu recevoir par le sacrement. Donc là, il y a comme une... si on est exactement orienté comme ce qui se passe dans le baptême, quelque part, la surabondance de Dieu pallie au fait que le baptême n'a pas eu lieu et donc va produire les effets et les bienfaits sans que le baptême ait eu lieu. Saint Thomas affirme la même chose. Certains peuvent obtenir la grâce sans le baptême d'eau, notamment par le baptême de sang, donc de nouveau le martyr, et le baptême de désir. Si le baptême d'eau est le moyen ordinaire voulu par le Christ pour entrer dans le salut et dans l'Église, le martyr pour le Christ ou le désir explicite du baptême unis à la foi et à la charité pour obtenir la grâce. Donc il y a bien quelque chose de la foi et quelque part qui devrait déboucher sur un baptême s'il y avait eu le temps, s'il y avait des suites, etc. Et donc c'est déjà un baptême en marche, quoi, quelque part. Après, l'Église est assez prudente. Hein. Elle ne dit pas ils seront sauvés. C'est pareil que le baptême. Hein. Elle dit juste probablement qu'on peut penser qu'il y a quelque chose qui s'est joué et qui est déjà de l'ordre du baptême. Et dans le credo, on a aussi on croit que Jésus est descendu aux enfers. Et donc, quelque part, il est parti chercher ceux qu'il ne connaissait pas. Et donc, probablement, ceux qui n'ont pas été baptisés. De toute façon, tous ceux qui sont passés avant le Christ, ils n'ont pas été baptisés. Donc, on parle quand même des saints, saints prophètes. Donc, du coup, il y a bien quelque chose comme une reconnaissance du Christ qui se joue là, quand il va descend aux enfers pour aller chercher ceux qui étaient là et qui attendaient. Comme si, c'est l'image qu'on a dans la chapelle du Bon Conseil, où on voit Jésus qui tire des enfers Adam et Ève. Et c'est comme si tout d'un coup, Adam et Ève reconnaissaient Jésus à ce moment-là. Voilà. Donc on a toujours cette possibilité-là, mais on ne se substitue pas à Dieu. Et nous, en tout cas, notre boulot, c'est de proposer les sacrements, d'annoncer l'évangile, parce que le baptême est le plus sûr moyen de gagner le ciel. Voilà, quand même. Alors on peut faire un parallèle avec le débat sur la foi et les œuvres, parce que finalement on est un peu là-dedans. C'est, si on a juste la foi, du coup est-ce que ça fait pas le sujet? Et donc quelque part on n'a pas besoin du baptême, c'est déjà ça. Donc si je reprends ce débat-là, on a saint Paul et saint Jacques qui semblent s'opposer. Donc chez saint Paul, la justification est un don gratuit. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Donc il a l'air de dire ce qui compte c'est la foi, les œuvres, on s'en fiche. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Donc là, il insiste vraiment sur le fait que c'est un don. Et quelque part, c'est un engagement de Dieu, mais nous, on n'a pas grand-chose à y faire. Il parle quand même de la foi. Puis on verra un petit peu plus loin autrement. Saint-Jacques, lui, penche pour la primauté des œuvres. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Donc on a clairement la foi qui est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infusée par Dieu et infuse par le sacrement du baptême qui nous est donné là. Donc on est clair, et ils sont tous d'accord, et saint Jacques et saint Paul, pour dire on ne va pas mériter notre salut. Le salut, il vient de Dieu, du Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà. Par contre, ce que montre et tout ce thème des œuvres montre que la grâce reçue, elle a porté un fruit réel. Et là, si on revient sur les sacrements, on a vu que ça nous transformait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose en nous qui se jouait, il y avait un bienfait en nous. C'est ça qui va produire les œuvres, en fait. Donc, c'est pas directement les œuvres qui produisent le salut, mais c'est un fruit du salut. Voilà, et c'est ce que Augustin luttait contre Pélage, en disant que parce que Pélage il disait on peut, si on veut, en gros, et donc ne pas pécher, on peut aller vers Dieu, etc. Et donc quelque part ça minimise la nécessité de la grâce qui reste première, alors que saint Augustin répond non, c'est la foi, et de toute façon on voit bien qu'on n'arrive pas tout seul à ne pas pécher. Donc voilà, et c'est bien la grâce de Dieu qui nous sauve. Donc saint Paul et saint Jacques, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils lient les deux, mais pas tout à fait dans le même ordre. Donc saint Paul, il parle aussi de la foi qui devient agissante, mais qui devient agissante. Donc c'est une question dans le temps. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Mais donc on a bien le don de Dieu qui est premier, et ensuite la foi qui, du coup, grandit ou qui est donnée, et du coup qui va pouvoir s'exercer dans la charité, dans les œuvres, et qui va pouvoir irriguer la vie. Voilà. Celui qui est juste par la foi vivra, mais donc juste par la foi, ça veut dire qu'il applique quelque part et qui agit dans le sens de la foi. Voilà. Et saint Jacques, il souligne aussi le lien qui unit la foi et la pratique, puisque, pareil, une foi qui... Enfin, ce qu'il dit finalement, c'est qu'une foi qui n'imprègne pas notre manière de vivre, en fait, elle resterait théorique. Et c'est une croyance, mais c'est pas une foi vivante. Voilà. Dans la lettre de saint Jacques, c'est intéressant parce qu'il dit n'importe qui peut dire qu'il croit en Dieu, et les démons le disent, et on le voit souvent quand Jésus expulse des démons, ils disent nous t'avons reconnu, tu es le Saint de Dieu, tu es le Christ, etc. Donc le démon aussi, il peut croire il peut dire je crois au sens je sais que tu es Dieu, mais c'est pas pour ça qu'ils ont la foi et les œuvres et les bienfaits. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a c'est pas qu'une question théorique de croire en Dieu au sens il existe, mais c'est bien croire au sens aimer Dieu et donc vouloir se laisser transformer par Dieu pour vivre en Dieu. Voilà, et donc les bonnes œuvres seront bien la suite. Voilà. Et donc on pourrait proposer une équation que je vous propose. Foi égale salut plus œuvre. Donc en fait, la foi, c'est le nom de Dieu. Par le baptême, elle produit le salut et elle produit les œuvres. Voilà. Donc quelque part, c'est comme ça qu'on a le petit paquet des trois. Voilà. Une fois qu'on est sauvé, la foi, elle n'est pas toute seule. Et donc, il y a les œuvres qui viennent. Et c'est une boucle parce que les œuvres et les sacrements, la vie de foi, en fait, elles font grandir la foi aussi. Donc, c'est aussi une boucle itérative. Et donc notre transformation, elle doit être holistique, affectant non seulement notre tête, ce que nous pensons, mais aussi nos cœurs, ce que nous aimons, et nos mains, ce que nous faisons. Voilà. Donc les baptisés sont rendus capables d'illuminer l'ordinaire de leur vie par les dons de l'esprit, et donc d'être, c'est ce paradoxe de la nouveauté chrétienne, d'être à la fois un don complètement gratuit, immérité de notre part, et en même temps une exigence brûlante qui fait qu'on ne peut pas l'indicatif baptismal, donc ce qui est dans le baptême, n'enlève rien au fait qu'on a un impératif moral. Voilà. Et finalement, en mode juste parallèle, en fait, ce qui nous a sauvés, c'est les œuvres, mais celles du Christ, et pas les nôtres. Voilà. Donc, c'est quand même les œuvres qui sauvent. alors, un dernier petit paragraphe sur le fait que Dieu, il veut le salut pour tous. Donc, cette discussion sur la foi et les œuvres, sur ce débat, Dieu peut sauver au-delà des moyens visibles. Et donc, dans 1 Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Donc, il le veut d'abord en demandant à ce que l'Église prêche le baptême et baptise. Donc, ça, c'est la meilleure manière. Mais ça peut déborder, puisque si l'Église ne peut pas être partout, ou si tous ne passent pas comme ça. Dans le catéchisme de l'Église catholique, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. Voilà, et Lumen Gentium, en Vatican II, dit « En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et de son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. » Donc on a bien des conditions, hein. c'est « peuvent », on n'est pas hyper affirmatif, mais il y a quand même ce chemin-là qui est là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fait, on a l'Esprit Saint qui agit déjà avant le baptême, puisque pour demander le baptême, souvent, il y a eu, notamment pour les baptêmes d'adultes, il y a eu, l'Esprit Saint, il agit, il y a un début de foi, quelque chose, sinon, il n'y aura pas de demande de baptême. Donc, et Dieu ne l'impose pas. Donc, on a à la fois avant le baptême, donc ça, c'est vrai pour les catéchumènes, mais aussi quand on est baptisé, la foi, elle continue à croître. C'est ce que je vous disais de la boucle du cercle vertueux. Voilà. Et donc, comme l'enseigne le Concile de Trente, la justification n'est pas seulement la rémission des péchés, donc on n'est pas juste, c'est pas une rupture, et puis voilà, c'est fait, et maintenant c'est bon, mais la sanctification et le renouveau de la personne intérieure, donc c'est notre vie nouvelle dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ça s'effectue par les œuvres, prières, charité et foi elle-même. Donc, quelque part, il y a des choses de cette nature-là qui sont avant le baptême et des choses qui sont après le baptême pour faire grandir. Donc, ce n'est pas autant segmenté. Ce qui est segmenté, c'est qu'il y a une réalité qui a changé par le baptême, qui est vraiment qu'on a la capacité de plus pécher. Et ça, il n'y a que le baptême qui nous donne. Mais cette démarche personnelle, et donc cette ouverture aussi à Dieu, elle s'inscrit plutôt dans le temps, et donc avant, après. Et voilà, on n'a jamais fini d'ouvrir. Peut-être même la vie éternelle, on aura toujours à découvrir mieux Dieu. Donc, c'est la partie de notre liberté qui doit s'engager dans cette œuvre. Et Dieu demande notre coopération. Donc, voilà ce que je disais sur les catéchumènes. Donc, Dieu agit en premier. C'est toujours lui qui a l'initiative. Il invite nos cœurs à lui répondre. Et on a la liberté d'accepter ou de rejeter son invitation. Et donc, quand on l'accepte, déjà, on commence à cheminer. Donc, on se rapproche. Et à un moment donné, si on demande le baptême, on a un peu un salut plus plaigné, on a en tout cas cette capacité de ne plus de ne plus pécher. Et donc, la foi grandit et se développe dans les œuvres. Voilà. Et donc, quelque part, ce que fait le bon larron, c'est qu'il a confessé que Jésus est Seigneur. Voilà. Et donc, quelque part, c'est ça qui peut le mener au salut. C'est bien ce qu'il a dit. Donc, il y a cette progression. Et je vous fais le parallèle avec c'est une image d'un père. Je ne sais plus du tout qui a imaginé ça. Et vous imaginez qu'il y a Dieu et le Christ au centre. Et puis, on est chacun sur un rayon d'un cercle. Et en fait, chaque fois qu'on se rapproche des autres, nos frères, quelque part, on se rapproche du centre. Donc, en fait, dans cette dimension-là, et c'est, je pense, tout l'enjeu de la charité qu'avait mentionné tout à l'heure saint Thomas, on n'a qu'à nous dire, en fait, la charité, elle est déjà cette foi qui s'exerce. Et d'ailleurs, au baptême, on a les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. C'est pas pour rien. Et du coup, la charité, c'est aussi cette dimension-là qui fait que si on essaye soit de se rapprocher de Dieu, soit de se rapprocher des autres, en fait, on va se rapprocher aussi de Dieu. Ça suppose une ouverture quand même. C'est pas juste j'ai fait le bien, j'ai aidé mes frères. C'est pas juste horizontal. Donc il y a quand même cette dimension d'ouverture à plus grand, mais il y a quelque chose de la charité de Dieu. Et dans la parabole du jugement dernier, dans Matthieu 25, 31-46, vous savez, c'est la parabole où Jésus dit il y a les brebis à droite et les boucs à gauche, ou je ne sais plus dans quel sens, probablement que j'ai inversé. Et il dit si vous avez donné à manger à un de ces petits, c'est en fait à moi que vous l'avez fait. Et en fait, il dit, quelque part, il met la charité et le bien comme un critère pour dire châtiment éternel ou vie éternelle. Donc, il y a quelque chose de cette charité en acte qui a quand même du sens. Par contre, ce qui est intéressant, le cardinal Lustiger avait une interprétation particulière à l'un de ses plus petits de mes frères. Et donc, pour lui, c'était pas n'importe qui, c'était quelque part ceux de l'Église, en fait. Donc, c'est si un non-chrétien, non-baptisé, aide quelqu'un qui sait qu'il est baptisé ou qu'il est chrétien ou choses comme ça, il y a quelque part cette charité qui se relie à Dieu, en fait. Et donc, à travers... donc, il interprétait comme étant pas juste n'importe quel pauvre, mais un chrétien. Voilà. Je trouve assez... Je pense pas que ce soit dogmatiquement... Enfin, c'est une interprétation. Hein, il y a d'autres défendables. Mais je trouve qu'elle est assez juste pour dire quelque part... c'est une manière de se rattacher à l'Église. Hein, et donc, c'est pas juste le bien au sens... j'agis bien, voilà. C'est pas l'agir moral qui va nous sauver, ça c'est clair que non. Mais il y a cette dimension de connexion avec le Christ et donc avec l'Église du Christ qui nous rattache finalement au salut et à ce qu'on reçoit dans le baptême. Voilà, Dieu qui est amour continue à s'incarner dans nos vies, nous donnant d'être peu à peu transfigurés par cet amour. Il nous attire à lui, il fait naître la foi, le désir de le rencontrer. Donc c'est bien lui qui a l'initiative. Par le baptême et à sa suite tous les sacrements, Dieu, après avoir investi l'humanité dans sa totalité en la personne de Jésus, continue à investir notre humanité, les moments clés de notre vie humaine à travers des signes visibles, de sorte que notre humanité soit touchée par la grâce qui émanait de la personne du Verbe incarné. On est vraiment dans la transposition de ce qui s'est passé pour Jésus, parce que le but, c'est de nous faire rencontrer Dieu et de vivre de la vie de Jésus. Dieu touche notre humanité à travers ses signes, comme il a touché l'humanité à travers la personne de son fils Jésus. Dieu donne à chacun de ses sacrements une portée spirituelle efficace pour notre salut, en lien direct avec ce premier sacrement qui est la personne humaine de Jésus. Donc, le premier sacrement, c'est Jésus, après il y a le baptême, puis après il y a les autres. De même que Jésus-Christ a pris sur lui notre humanité et l'a assumée, Dieu prolonge sa présence efficace à travers les signes des sacrements, investissant le signe sacramentel d'une grâce de divinisation propre à chaque sacrement, qui touche tel ou tel aspect de notre vie humaine et qui se modélise ou se matérialise différemment. Et donc Dieu continue à s'incarner dans notre humanité, l'apportant de toute sa puissance divine. Et c'est cette incarnation sacramentelle que permet l'Église, qui est la résurrection au travail dans notre existence de chaque jour et qui nous fait cheminer pour aller vers le ciel. Voilà.